Jean Lassalle, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir au Lutetia Paris 6e. C'est un honneur de vous recevoir. C'est un véritable honneur parce que vous êtes un homme atypique. Je crois que c'est l'atypisme qui vous caractérise. Et merci d'avoir pris de votre temps parce que la rentrée parlementaire vient d'avoir lieu et vous avez un emploi du temps très chargé. Alors merci d'être là. Je voudrais commencer une toute première question. Simplement, est-ce que vous pouvez nous retracer les grandes lignes de votre parcours politique ?
Bonjour, cher Emmanuel Leclerc. D'abord, je suis fondamentalement heureux chez vous depuis que j'y suis rentré il y a maintenant 10 minutes. Et je suis très honoré d'être à vos côtés. Alors, en ce qui concerne mon parcours, il commence très tôt, pratiquement, je pense, de la naissance. Très rapidement, j'ai eu une enfance suivie d'une adolescence ambivalente. Je suis très heureux à la maison, dans une famille aimante. Papa est certainement le seul homme que j'admirais au monde. Il s'en est allé il y a très longtemps déjà. Maman nous a quittés au mois de mai dernier. Elle n'avait que 17 ans de plus que moi. Et vraiment, il s'était trouvé d'une manière, je trouvais, formidablement harmonieuse. C'était, nous serions aujourd'hui au seuil de pauvreté, mais enfin le seuil de pauvreté avait même été dépassé. Il n'y avait ni route, ni quoi que ce soit, puisque j'ai eu la chance de réaliser tout ça lorsque j'ai été élu maire à 21 ans. Et en plus, cette famille était, comment je devrais dire, se parlait, réfléchissait à sa manière, et elle était joyeuse. Papa chantait du matin au soir, quoi qu'il advienne.
Vous avez gardé cette joie
qui vous... Il y avait une forme de joie. Et il y avait le débat, parce que du côté de papa, ses frères et lui étaient tous gaullistes, mais gaullistes de résistance. Et du côté de maman, il n'y avait que des filles, dont l'une par bonheur avait épousé papa, et les autres avaient épousé des réfugiés espagnols, puisque nous étions à la frontière, tous gravement communistes. Et les débats familiaux, bon, il fallait quand même faire une petite cinquantaine de kilomètres, souvent à pied, pour se retrouver. Donc on avait le temps de... Enfin, ils étaient jeunes quand même encore à l'époque, voilà, pour calmer les esprits. Puis ça commençait, vous voyez, ils commençaient à se taquiner, le temps de prendre un peu de Ricard espagnol, ou de Pernod espagnol,
pas oublié.
Pas loin. Et puis après, les femmes sonnaient la fin de la récréation, on passait à table, et puis là, il n'y a plus un mot de politique.
C'est ça.
Où il y en avait, mais c'était d'une manière... bienveillante. Ils se reconnaissaient mutuellement les mérites. Et ensuite, j'ai eu envie d'être maire très jeune.
Vous avez été le maire le plus jeune de France, il me semble.
Oui, mais uniquement pendant 15 jours.
C'est déjà pas mal.
On en a trouvé un de plus jeune à 50 km de chez moi.
Ah.
Les deux, nous étions sur le même territoire.
Oh là là.
Il avait 14 jours de moins. C'est mon actuel suppléant, d'ailleurs.
Oh là là, c'est formidable.
La guerre. Et moi, j'ai été invité à l'Élysée et lui y a été.
D'accord.
Valéry Giscard d'Estaing, qui avait abaissé le droit de vote de 21 à 18 ans et le droit d'éligibilité de 23 à 21 ans. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas eu d'autres que nous. D'ailleurs, notre record a tenu pendant plus de 25 ans.
D'accord.
Après, bon, mais sur maintenant, c'est monnaie courante. Enfin, à l'époque, ça n'était pas.
C'est ça. Et donc, votre grand parcours, votre grande carrière politique a été ponctuée par cette rencontre. Et je crois que vous êtes l'homme de la rencontre. Vous avez fait le tour de France, vous avez fait le tour de l'Europe, bientôt peut-être le tour du monde, qui sait déjà que vous aimez voyager, donc c'est extraordinaire. Mais dans ces rencontres, vraiment dans cette rencontre aux Français, quelle a été pour vous cette grande richesse? Quelle est la richesse de la rencontre?
La spontanéité qu'on ne trouve plus.
Parce que vous vous définissez comme le porte-parole des sans-voix, si je puis dire.
Oui. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit en premier ou d'autres, mais je trouvais que c'était pas mal. Alors, comme il faut des éléments de langage, je trouvais que l'idée n'était pas pire qu'un autre. La spontanéité, et puis, au fond, le besoin de parler. Nous vivons une époque où un des grands malheurs de notre temps, c'est de ne pas pouvoir échanger. Parce que pour échanger, il faut toute une préparation. Alors, et puis, quand ça arrive le moment, on est un peu bloqué, on n'y arrive pas bien. Alors que j'ai connu un temps pas si éloigné où l'on parlait, que ce fut en ville, à la campagne d'abord, puisque j'ai connu la campagne avant la ville, mais on parlait beaucoup plus spontanément.
C'est ça.
Et on se libérait. On était d'accord, pas d'accord, mais même oui. la simple première rencontre,
c'est ça.
Le premier bonjour, le premier regard n'était pas suspect.
Il était authentique.
Voilà.
Oui.
Il était authentique. Et j'allais dire, il était naturel.
Mais que cherchez-vous alors dans cette authenticité de la rencontre, du regard? Vous avez écrit après votre tour de France à la rencontre des Français. Qui montre et qui révèle toute cette richesse que vous avez eue, que vous avez rencontrée. Mais que retenez-vous? Pourriez-vous nous conter la plus belle rencontre que vous avez faite durant ce tour de France et ce tour d'Europe? Celle qui vous a le plus marqué et pourquoi?
Je ne sais pas laquelle je choisis, mais j'en rencontre rapidement deux qui sont très différentes. Un soir, vers 21h, 20h, c'était au mois de mars, et je traversais une zone betteravière très importante, entre la Picardie, du côté de la Picardie, et il y a une dame qui sort et qui vient à ma rencontre, et qui me dit: ah, Monsieur le député, s'il vous plaît. Tout le monde m'appelait monsieur le député, c'est incroyable. Et mon mari vous a attendu toute la journée pour voir, parce qu'on avait entendu dire que vous passiez, peut-être. Il ne vous a pas vu. Et maintenant, c'est moi qui vous ai vu. Est-ce que vous accepteriez de faire quelques mètres en arrière pour venir le voir? Il serait très heureux. Et là, j'ai rencontré un homme de 80 ans pratiquement, une force de la nature.
Force de la nature.
Et il était betteravier. Et le gars me dit: je voulais vous voir parce que je suis très riche. Ou plus exactement, je l'ai été. Et puis alors, avec la PAC, j'ai amassé un argent fou, beaucoup plus que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et je suis l'homme le plus détestable à mes yeux que j'ai jamais vu. J'ai fait à peu près tout ce que j'ai pu pour éliminer les voisins, parce que je pensais que ça allait être plus facile pour la culture, pour les cultures. J'ai 400 hectares de betteraves, parce que j'ai 150 hectares, enfin le site il avait pratiquement 500 ou 600 hectares en culture de haut niveau. Et il me dit: vous savez, notre malheur, mon malheur, ma femme n'y est pour rien. Je n'ai gardé aucun de mes fils. Et même le dernier, celui qui savait démonter le tracteur et le remonter, celui qui trouvait toujours, qui était là jour et nuit, eh bien, elle me l'a volé. Je dis: mais enfin, qui vous l'a volé? Alors, entre-temps, il avait quand même sorti une bouteille de whisky, une monteur assez attirante, qui ne pouvait pas échapper au regard. Et dans ce riz, je m'étais promis, moi, de surtout pour faire attention à l'estomac, puis pour marcher aussi, et des rasades entières. Et son malheur, c'est que son dernier fils, il avait présenté, pour ce qui devait être à cet homme-là, le plus beau jour de sa vie, sa fiancée.
Ah.
Et dès qu'il l'avait senti, dès qu'il l'avait perçu,
c'est ça.
Il avait senti en face comme un glaçon cette jeune femme. N'était pas à l'aise dans cette propriété,
oui.
N'était pas à l'aise dans cette maison. Et d'ailleurs, a-t-elle dit, au milieu du repas, je ne vivrai jamais ici.
Ah oui.
Vous n'êtes pas mon univers. Je mourrais de chagrin si je devais vivre ici.
Ah oui.
Jamais aucun de mes enfants ne naîtra ici. Et pourtant, ils étaient fiancés depuis un certain temps. Alors, quand cette sale femme l'a entraîné, et maintenant, il est à l'hôpital d'Amiens, mais il n'a même pas un emploi pour toute la vie. Hein. C'est un bout d'emploi, comment on appelle ça? Mais tu le sais, arrête de toujours dire la même chose. Je dis ça, c'est un emploi à durée déterminée. Vous vous rendez compte? Il y a des millions ici. Il y a tout ce qu'il faut. Et lui, il a un bout de contrat. Et qui est payé combien? Enfin, voilà. Donc, le désespoir immense, c'est je suis un salaud. Parce que pour la première fois, nous avions résisté à Valmy. Nous avons résisté à 70, à la guerre de 14-18. Il y a toujours eu un cousin, un neveu pour reprendre cette maison. Et moi, je suis celui qui la laisse à s'éteindre. Je suis le plus sale type que j'ai jamais vu de ma vie.
Ah oui, voilà. une belle rencontre, une rencontre très authentique, sincère. Très sincère. Vous venez d'utiliser un mot qui vous est cher. Vous avez utilisé le mot résister. Résistons. Et vous venez de sortir aux éditions Le Cherche Midi, Aurore ou Crépuscule, résistons. En 2016, vous avez créé, fondé votre mouvement politique, résistons. Pourriez-vous nous parler de ce mouvement politique? Quel est véritablement son objectif? Et quel est son objectif et pourquoi l'avez-vous écrit?
D'abord, parce que...
Je vous en prie, n'hésitez pas, il faut manger.
J'ai pas eu de blessure physique, si j'ose dire, comme mon frère a pu en avoir. Bon, c'est lui finalement qui avait repris le troupeau, la ferme, les blessures. Moi, je me suis cassé qu'une cheville, je crois. C'est pas beaucoup. Mes fils aussi, un jour en rugby, etc., se sont cassés le bras. Moi, j'ai eu quelques blessures morales. Et il y a d'abord eu le fait que j'étais profondément gaulliste, si on parle uniquement sur le plan politique. Et j'avais, pour moi, c'était... j'avais fait de ce symbole de la résistance, puis tel que mon père, d'ailleurs, ne l'évoquait pas, mais comme je le ressentais de lui, quelque chose d'extraordinaire, la raison suprême de vivre libre et digne,
c'est ça,
et de respecter l'autre. Et puis alors ensuite François Bayrou, je suis beaucoup plus court, mais a émergé dans notre département, et je trouvais que ce qu'il disait c'était à peu près la même chose que je disais. Lorsque nous avons parlé, on s'est rendu compte que nous avions été tous les deux très fortement inspirés par Gandhi, que nous avions été à la communauté de Lanza del Vasto.
C'est ça.
Très jeune, mais sans le savoir ni l'un ni l'autre, que nous avions un peu la même perception de la non-violence, etc. Voilà. Donc, et puis très longtemps, il y a eu l'aventure François Bayrou que j'ai accompagné passionnément. J'ai appris de lui, je pense qu'il a peut-être un peu appris de moi aussi.
On apprend toujours des uns des autres.
Voilà, je pense.
Oui.
Et puis, à partir de, je ne sais pas moi, sa dernière campagne, c'était en 2012, je le présentais déjà. J'ai très mal vécu cette campagne parce que je le soutenais, mais je ne ressentais pas du tout ce qu'il disait. Autant celle d'avant, j'avais adhéré.
Oui.
Et je m'étais donné à fond. Là aussi, je me suis donné à fond, mais je ne sentais pas.
Il y avait quelque chose qui vous. Qui était réticent. Vous étiez réticent.
Je trouvais que. Et en fait. Voilà, moi j'ai donné une explication, mais oui. Bon, ce qu'elle vaut, je pensais que on se séparait simplement politiquement, mais mm-hmm. en fait c'est une rupture physique aussi.
C'est ça.
Parce que il n'en a pas supporté, puis dans le fond, moi je n'ai pas non plus supporté d'une certaine manière son attitude. Voilà, bon, en fait, nous ne nous parlons pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai surtout, je me suis intéressé plus à la politique nationale. Enfin, bon, je m'y intéressais, mais pas comme quelqu'un qui doit y penser aussi profondément. Et j'ai pris conscience de que notre pays, d'abord, commençait à s'effondrer littéralement. Il s'effondrait d'ailleurs plus
moralement,
intellectuellement, oui. moralement que physiquement, parce que physiquement, bien sûr, il y a eu 400 000 entreprises de perdues
entre
2000 en gros et 2010 sous Chirac. Jacques Chirac. Et puis le fait que le matérialisme avait pris en quelques années une ampleur à laquelle personne ne pouvait ouais. échapper. Et j'ai ressenti à partir de ce moment-là la nécessité absolue de poser des actes. Donc je me suis levé chaque fois que je n'ai pas pu éviter de le faire. C'est chaque fois que j'ai pu éviter, quand j'ai essayé, je me suis levé pour interrompre Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale.
C'est ça. Mmh.
Alors, le jour où il était le plus en vue, puisque on venait de découvrir une catégorie de personnes, d'activités que personne n'avait jamais entendu, c'était les intermittents du spectacle, qui avaient conduit Jean-Jacques à Yagon.
Tout à fait.
À le bas de la crevasse. Et ensuite, il y avait Luc Ferry qui avait tous les enseignants dans la rue.
Oui.
Vous voyez, c'était un gouvernement assez intellectuel quand même. Et puis, monsieur le, maintenant le maire de Bapaume, là, qui a été. Avait réussi à mettre dans la rue une autre catégorie dont on n'avait jamais entendu parler, c'était les employés des collèges et des lycées,
oui.
en les mettant à la disposition des départements
oui.
et des régions. Et donc, c'était vraiment un sentiment de grève générale, mais pratiquement, en tout cas, voilà. Et Jacques Chirac a dit à Nicolas Sarkozy, qu'il détestait pourtant, aujourd'hui c'est toi qui vas répondre au nom du gouvernement, tu répondras à toutes les questions. Donc du coup, il a répondu aussi en tant qu'aménagement du territoire, et moi j'attendais une occasion pour l'interrompre, je l'avais froidement je l'avais averti parce que je ne frappe jamais sans avertir. Je lui ai dit, écoute Sarko, tu ne veux pas m'entendre, un jour tu m'écouteras. Et il était déjà entouré, on sentait que c'était la tête qui montait. Et là, ensuite j'ai eu la grève de la faim, je ne supportais pas le déracinement de cette usine qui fonctionnait très bien, qui était une de celles qui gagnait le plus d'argent en France à ce moment-là. Puis ensuite, le Tour de France s'était imposé
comme une évidence.
Parce que je sentais qu'à l'Assemblée, ça n'allait pas du tout. Jadis, à la buvette de l'Assemblée, nous parlions assez spontanément.
Autour de la buvette, on parle toujours.
Mais là, il y avait un petit groupe, et vous savez, on sent ça très bien quand ça ne va pas.
Oui.
Vous vous approchez et la conversation se tait.
C'est ça, exactement.
Il
y a un mal-être.
Et je sentais que ça n'allait pas du tout. Et je voyais même les électeurs qui me disaient, mais enfin quand même, on a de nouveau un président tout neuf, vous n'allez pas recommencer à ne rien foutre. On
c'est
est
ça.
En train de crever littéralement. Et alors nous, on débattait gravement et doctement du mariage pour tous. Et je sentais notre pays se fracturer.
Se fracturer, oui.
On a dit les pires saloperies qu'on pouvait dire à peu près sur la
jambe humaine. Et vous, vous êtes allé... à la rencontre des Français, mais surtout, et la quatrième de couverture de votre dernier ouvrage le dit, vous remettez l'homme au centre de tout.
Oui.
Vous remettez l'homme au centre de tout. Et ça tombe très bien dans votre cercle de pensée de Venir pour agir, parce que l'anthropologie, l'homme au cœur de lui-même. Autrement dit, l'homme devrait apprendre peut-être, je vous en prie, hein, l'homme devrait peut-être apprendre à se connaître pour bien agir demain. Est-ce aussi la ligne de conduite que vous avez? Où voulez-vous conduire l'homme? Vous qui êtes berger, vous vous définissez comme berger, qui était votre première profession.
Il me semble que l'homme doit retrouver l'homme.
L'homme doit retrouver l'homme, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il doit se retrouver. Il doit se retrouver en lui-même, en son fort intérieur, mais il ne le peut pas s'il est tout seul. C'est trop difficile à mon sens. Donc il doit forcément trouver l'autre.
Il doit trouver l'autre.
Et à partir de ce moment-là, il y a échange. Et dès qu'il y a échange, tout est changé, si je puis dire.
Ça.
Et l'homme se retrouve, parce qu'il trouve qu'il réfléchit, qu'il a beaucoup de points communs avec celui avec qui il échange.
Oui.
Il a aussi quelques différences. Et c'est deux citoyens.
C'est ça.
C'était deux hommes perdus, ils en deviennent deux citoyens.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais parce que s'il se retrouve, c'est qu'il s'est perdu. Où s'est-il perdu?
Ah, il s'est perdu.
Vous parliez du matérialisme tout à l'heure.
À plusieurs reprises dans notre longue histoire. Mais il s'est perdu au moins depuis la découverte des Indes et de l'Amérique par les États les plus puissants de l'époque, enfin ceux qui avaient la meilleure marine en tout cas, et l'afflux d'or, d'argent, d'encens qu'ils ramènent sans équivalent.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est la naissance du capitalisme, suivi quelques temps après de celle, au moins dans la pensée du communisme. C'est à ce moment-là que naissent ces deux grandes idéologies qui domineront le XXe siècle, la fin du XIXe. Voilà. Et depuis la chute du mur de Berlin, parce qu'il faut mettre des dates,
oui.
Notre modèle, parce que je considère que nous avons vécu un modèle de démocratie où ça votait dans tous les pays, et puis il y avait cet espoir d'une Europe fraternelle qu'on allait construire pour être mieux,
oui.
Pour être vraiment frangin, ce serait impossible d'aller chez l'un chez l'autre sans aucune douane.
Cette fraternité.
Cette fraternité, oui. Voilà. Et puis là, j'ai senti que c'était un événement qui allait tout changer. Il faut dire que je m'étais rendu à plusieurs reprises dans les pays de l'Est, en autostop, à partir de mes 20 ans. Et même lorsque j'étais déjà maire, j'étais déjà conseiller général et chef d'entreprise, parce que j'avais créé ma propre entreprise pour être indépendant du pouvoir, de l'argent, de la politique, quel qu'il soit. C'est mon père qui m'avait dit il faut que tu ne fasses que ce que tu veux payer toi-même, sinon tu ne serviras à rien.
C'est ça.
Au contraire, pire. À mon avis, tu viendras compliqué, tu seras un élément complicateur de plus. Si tu ne peux pas dire ce que tu dois dire, ça ne sert à rien.
Oui.
Et voilà, et là j'ai senti que c'était les bons qui avaient gagné d'une certaine manière. Nous avions la chance d'être du bon côté, mais nous avons complètement perdu pied.
Oui.
Et il a fallu que quelques mois d'abord et puis quelques années pour que de modèle, le mode de vie dans lequel nous étions, l'art de vivre que nous avions acquis, redeviennent une fois de plus système.
Système, ouais, c'est ça.
Un système qui broie.
Oui.
Et qui brise. Oui. Alors aujourd'hui, pour détruire un homme, on n'a pas forcément, et c'est beaucoup moins coûteux, de l'envoyer au goulag ou dans un camp de je ne sais quel pays d'Amérique du Sud ou de Grèce, des colonels. On le laisse mourir sur pied.
Oui.
C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'attache plus aucune importance.
C'est ça.
On l'isole.
On l'isole, oui.
On lui donne un rôle dans lequel il ne se sent pas du tout.
Oui.
Et puis, on lui affecte une image et vous en mourrez.
C'est ça. Est-ce que vous pensez que l'homme doit se retrouver? Vous êtes l'homme de la ruralité, l'homme des territoires. À votre avis, l'homme doit-il quitter d'une certaine manière les villes pour retourner dans les territoires là où il va se retrouver face à lui-même?
Alors, je suis l'homme de la ruralité des territoires. surtout à cause de mon accent, par le fait que j'y ai vécu jusqu'à... j'ai découvert, je pense que mon premier voyage à Paris, j'avais 19, 20, oui. Mais ensuite, je me suis senti aussi très bien dans la ville. Et d'ailleurs, lorsque j'ai cessé d'être berger, j'avais remplacé au pied levé papa, qui était tombé dans une crevasse. Et du jour au lendemain, ma vie a basculé. Le lendemain, j'avais l'oral de l'examen que je devais passer, mais j'étais à 2700 mètres d'altitude. Et j'avais repris le troupeau dans la nuit. Il fallait, d'ailleurs, il n'était plus là. Ce n'est que le matin que je l'ai trouvé. Mais lorsque je me suis rendu à Paris, je me suis spontanément senti bien aussi.
D'accord.
Et pendant mon tour de France, j'ai visité les 50 banlieues les plus, je dirais, chaudes de notre pays. Et je n'ai pas connu d'incident majeur. Au début, j'étais accompagné par un journaliste, mais après, c'est sa femme qui est venue me voir en disant « Non, je veux plus qu'il vienne avec toi. » Il fait des sauts dans le lit pendant la nuit. Et c'est vrai que les moments de tension...
Voilà. Dans le couple, oui.
Et, non, mais de tension que se génère.
C'est ça.
Le fait d'aller un petit peu à l'inconnu avec tous les fantasmes qu'il y a
autour, oui.
Alors que
oui.
Moi, il ne m'est jamais rien arrivé de si critique que ça. Et j'avais commencé, d'ailleurs, conseiller général très jeune. Nous faisions des voyages à l'époque, c'était le temps béni, où le conseil général payait. Assez, alors, pour le grand bonheur du canard enchaîné, un voyage avec femme, parfois maîtresse, ça nous parlait de mon temps.
C'est sûr. Etc.
Et alors, donc, je m'étais enfui un soir où nous étions à New York, on allait faire un tour que je pensais rapide. En fait, j'étais resté deux jours, donc à la grande panique de mon groupe, du conseil général, avec tout ce que ça générait aussi. Et j'étais descendu dans ce qui me fascinait dans les bas quartiers de, maintenant le nom m'échappe, vous savez, ce secteur de New York, malfamé, enfin qui était malfamé pendant longtemps, maintenant ça va un peu mieux. Et j'ai rencontré bien sûr ce que je pensais, c'est-à-dire des attitudes humaines extrêmes. Mais j'ai vu aussi en même temps le profond sentiment d'humanité, même au fond de la tragédie.
Oui. L'humain, le cœur de l'humain.
Le cœur de l'humain.
Au fond de la tragédie.
Pourquoi quelqu'un était capable de mettre un coup de rasoir et de laisser à terre, mais de se montrer d'une fraternité.
C'est ça.
Incroyable.
30
secondes après, avec quelqu'un d'autre à qui il ne voulait pas de mal.
Tout à fait, oui.
Voilà, c'est ça. Oui. Donc, je ne suis pas que l'homme des territoires. Je pense que je suis bien partout où je me trouve. Je suis très bien chez vous ce matin.
Merci beaucoup.
Et pourtant, je suis très loin d'avoir appris ce que vous avez appris.
On apprend tellement des autres.
Exactement.
On apprend des autres.
C'est exactement ça.
C'est ça qui est très beau.
C'est ce qui est fascinant.
C'est ça.
Vous me demandiez qu'est-ce qui me pousse, c'est justement ça.
C'est ça.
C'est des moments comme ça. Il n'y a pas de prix.
Tout à fait. La grande richesse de l'homme, c'est son unicité. Et en fait, et la grande richesse du monde... C'est la multiplicité. Et en fait, c'est dans l'unicité qu'on s'apprend, qu'on devient soi-même, devenir pour agir. Mais Jean Lassalle, l'interview va bientôt s'achever malheureusement. Une dernière question. Vous avez été appelé par plusieurs présidents de la République pour occuper des postes ministériels. Et là, vous vous êtes déclaré candidat officiel à l'élection présidentielle 2022. Vous avez beaucoup de jeunes qui vous écoutent, qui nous écoutent. Ma dernière question est la suivante. Quel message pouvez-vous leur adresser aujourd'hui?
D'abord, je veux leur dire mon extraordinaire reconnaissance. Parce que, vous savez, déjà, le fait d'être apprécié, d'être aimé de ses propres enfants, est un élément très touchant pour un père. Mais que tant de jeunes, de milieux tellement différents, me parle, m'accoste, m'écrive, enfin, m'écrive, mail, que je ne lis pas d'ailleurs, c'est Jacques qui l'a dit, mais auquel nous efforçons de répondre avec autant de spontanéité, me touche beaucoup, le fait qu'il m'ait invité dans autant d'amphithéâtres, etc. Ça me touche, je leur dis merci. Et je leur dis, si j'ai un message, ce que me disait papa. Papa me disait, je vois comment tu évolues, il faut te mettre une chose dans la tête. Il y a des limites, heureusement, pour tous les hommes. Bien, pour toi, ta limite sera toi-même.
C'est beau.
C'est la limite que tu te mettras toujours. C'est personne. Les autres, tu les surmonteras. Mais celle que tu n'arriveras pas à surmonter, c'est la tienne. Non, moi je leur dirais, eh bien, surmonter la limite que vous allez bien voir apparaître à un moment ou à un autre.
C'est ça, exactement. Voilà. Oui.
Et dites-vous que vous êtes très largement au niveau, c'est pas une question. Vous avez beaucoup appris, vous savez aussi, ce n'est plus un secret que nous avons failli. Que la génération qui vous a précédé n'a pas été une génération heureuse, qu'il faut que vous preniez les clés du camion très rapidement. Vous trouverez un certain nombre de... parce qu'il faut que ce soit équilibré, mais de personnes plus âgées que vous qui vous y aideront. Ils ne supportent pas ce qu'ils ont tant contribué à faire par leur immense lâcheté. Et la plus belle manière de finir pour eux, c'est de finir par un acte positif et faire que cet Occident, qui n'a jamais réussi une transformation de son monde de manière pacifique, ça a toujours été dans des veines de sang, le fasse pour une fois de manière fraternelle et joyeuse. Vous pouvez le faire. Vous êtes le blé en herbe. Grandissez. Vous êtes déjà grand. Et faites-le.
C'est sur ces belles paroles, Jean. Merci, grandissez. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour votre authenticité. Tout simplement, merci d'être qui vous êtes. Merci, Jean Lassalle, d'être venu nous voir. Les amis, bonne journée à vous et à bientôt.
Je vous remercie aussi parce que chez nous, quand on est remercié, on remercie. Et il ne peut pas y avoir de bon moment s'il n'est pas partagé.
Exactement.
Parce qu'à un moment ou à un autre, l'autre ressent.
Et nous avons partagé un bon moment.
Dans les réponses, parce que je n'avais pas encore bien votre calibre, si je veux dire.
Non, je vous en prie.
On ne peut pas expliquer non plus en quelques mots.
Exactement.
Tellement de choses qui ont pu arriver au cours de ma vie, comme dans la vôtre.
En tout cas, nous nous remercions mutuellement.
Nous nous remercions.
Merci beaucoup. Merci.
Et on se serre la main.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Voilà, c'est la fraternité.